Informer, comprendre, agir. Bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire pour la planète. C'est l'heure de la chronique environnementale avec Jean-Louis Caffier.
Eh bien, soyez les bienvenus à tous pour cette première chronique de l'année, de la chronique environnementale. Tout d'abord, bonne année à tous et notamment à Jean-Louis Caffier.
Merci, bonne année à tout le monde.
Alors Jean-Louis, j'espère que tes fêtes se sont bien passées.
Oui, ça a été pas mal, c'était assez raisonnable, voilà.
Alors pour cette première de l'année, on va du coup parler des oiseaux pendant la période d'hiver. Donc tout d'abord, quand on parle des oiseaux en hiver, comment peut-on les aider? Et est-ce bien nécessaire? On ne le mesure pas souvent, mais les oiseaux se sentent très bien dans notre région.
Oui, alors c'est assez impressionnant même. Il y a entre 325 et 350 espèces d'oiseaux dans notre région. Donc ça fait beaucoup en plus pour un secteur qui est éloigné de la mer, parce qu'il y a beaucoup plus d'oiseaux sur les rives des mers et des océans. Alors pourquoi il y en a autant? Parce qu'il y a la Loire déjà, 130 kilomètres. C'est comme un guide pour de nombreux migrateurs également. Il y a des milliers d'étangs et il y a deux des plus grosses zones humides de France, la Brenne et la Sologne. On ajoute quelques forêts quand même, forêts d'Orléans, Montargis, etc. Donc ça fait beaucoup de possibilités pour les oiseaux, pour nicher notamment.
Et il y a beaucoup de migrateurs, j'imagine. D'oiseaux qui doivent se migrer ici dans notre territoire.
Oui, alors les plus connus, les hirondelles, bien sûr, les martinets, les sternes, les rouges-gorges, les martins pêcheurs. Alors il faut bien préciser que la plupart ne font pas des milliers de kilomètres, mais qui vont juste au Club Med en Espagne. Hein, essentiellement, c'est la principale destination, donc il fait meilleur, il fait plus chaud. Et ils ne traversent pas du tout la Méditerranée. Et ceux qui restent et qui sont là en ce moment, il y a les hérons cendrés, il y a les canards colverts, les grands cormorans, il y a les mésanges charbonnières et mésanges bleus, et puis les pinsons des arbres. Donc il nous reste quand même pas mal d'oiseaux à observer, à regarder et à apprécier.
C'est vrai, en plus en ce moment il ne fait pas très chaud là, dans la région, mais j'imagine qu'on peut les aider toutefois par ce grand froid, les oiseaux.
Oui, il y a ce qu'on appelle la pratique des boîtes dortoirs. Alors l'idéal, c'est la boîte de chaussures.
C'est une
bonne dimension, il ne faut surtout pas l'installer n'importe où, dans un arbre qui serait susceptible d'être atteint par les chats, notamment, qui se régalent des oiseaux quand c'est possible. Il y a ce qu'on appelle les boîtes dortoirs. Donc, ces boîtes à chaussures, on essaie de bien les placer dans l'arbre et puis face au vent également, donc essayer de réagir pour les protéger. Et ça marche très bien dans les clochers des églises, par exemple, dans les granges aussi, on peut installer ce genre de choses assez facilement pour ceux qui ont envie de le faire.
Et ils se font aussi très souvent dans les villes aussi des petits nids. Je ne sais pas si tu as déjà vu des exemples.
Oui, bien sûr. Ça marche très bien pour les mésanges, par exemple, hein, qui s'en occupent vraiment très, très bien. Il y a donc des possibilités pour aider les oiseaux, même par grand froid. Mais il ne faut jamais oublier que ces oiseaux, ils sont sauvages. Hein, ils se débrouillent tout seuls, en général. On peut leur donner un petit coup de main. Et c'est vrai aussi pour l'aspect nourriture.
La nourriture, c'est la grande préoccupation pendant cette période d'hiver pour les oiseaux. Comment peut-on les aider?
Alors, la nourriture, il faut considérer que c'est un appoint utile, notamment par grand froid. Il faut les nourrir, les oiseaux, uniquement quand il fait bien froid dehors. Sinon, ça ne marchera pas, ils se débrouilleront.
À partir de combien de degrés environ?
C'est autour de 0 degré, c'est pas mal, quoi. Si ça descend en dessous, on peut considérer que c'est un grand froid et qu'on peut donc agir. Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est uniquement dans cette période donc, de novembre à la fin du mois de mars. Et le mélange pour nourrir ces oiseaux, c'est un mélange de graines. Alors le tournesol est très en vogue parce qu'il contient un petit peu de graisse aussi qui satisfait l'appétit des oiseaux. Autre graine, celle de cacahuète.
Ah, une graine de cacahuète.
Et puis le maïs aussi. La graisse, on en parlait, ne fait pas l'unanimité chez les ornithologues et chez les protecteurs de la nature. Donc à utiliser avec prudence. Et surtout, il ne faut pas considérer que c'est open absolument, que tout est bien, tout est ouvert, chacun peut se servir comme il veut. Il faut être raisonnable sur ce qu'on donne aux oiseaux qui ne prennent pas l'habitude d'être complètement assistés. C'est très important parce que les petits ont besoin d'insectes aussi pour se développer. Il ne faut pas leur donner de graines.
notamment les vers de terre, parce que c'est vrai qu'ils se cachent pendant cette période d'hiver aussi.
Oui, oui, c'est bien de faire un compost, par exemple, dans son c'est jardin, vrai. Parce que ça attire des vers de terre qui peuvent nourrir les oiseaux, c'est clair.
Puis, il y a de plus en plus d'oiseaux blessés aussi pendant cette période. On en découvre souvent. Comment peut-on agir ?
Eh bien, il faut préparer une boîte, pareil, le carton à chaussures. On prépare la boîte avec des petits trous partout pour qu'il puisse respirer, notre ami petit oiseau. Il faut le poser doucement, il ne faut pas lui donner à boire et surtout pas à manger non plus. D'accord. Parce que les petits oiseaux, moi j'ai connu ça cet été parce que j'ai sauvé avec mon épouse quelques martinets qui s'étaient écrasés là contre le mur de la maison et qui étaient tombés, notamment au moment de la canicule. Il faisait très chaud, ils ont dû essayer de se barrer pour trouver de la fraîcheur et ils sont tombés. Alors on a appelé la LPO, ils sont vraiment très très sympas ces gens, il faut vraiment compter sur eux. Ils sont disséminés un petit peu partout dans le département, dans la région, donc il faut prendre la voiture pour aller leur confier les oiseaux blessés. Mais on en a amené 3-4 l'été dernier, ils ont tous été sauvés.
Il y en a dans le territoire giennois, j'imagine.
Oui. Alors je peux pas vous donner les adresses parce qu'il y en a beaucoup. Il faut taper sur internet et trouver LPO Loiret et vous allez trouver toutes les coordonnées des gens qui sont très très sympas et qui peuvent s'organiser pour faciliter la récupération des oiseaux blessés. Ouais.
Et si un jour vous retrouvez un oiseau blessé, donc n'hésitez pas à aller voir la LPO de votre ville.
Absolument, la Ligue de protection des oiseaux. Alors, toutes ces données, c'est à valoriser aussi à travers différentes opérations, c'est lié à l'observation. On peut en faire un atout touristique. Il y a de nombreux sites d'observation dans le département du Loiret qui sont gérés soit par la LPO, là encore, soit par France Nature Environnement. Il faut aller voir sur le site de l'Office de Tourisme, l'ORT régional, pour avoir les contacts, les adresses et les dates, parce qu'il y a des visites qui sont organisées.
Il y a des permanences
Il y a des permanences, et tout l'été notamment, il est possible d'observer les oiseaux, mais on peut le faire aussi en hiver. C'est pas complètement en sommeil. Donc c'est un truc qui est quand même sympa, observer avec un vrai spécialiste les oiseaux à la jumelle, bien sûr, voir qui est qui fait quoi, et quelles sont les histoires qui sont liées à ces oiseaux. Et puis il y a une autre initiative qu'on peut suivre et qui est liée à l'observation, c'est la science participative. Donc on demande aux citoyens d'agir, d'observer, de compter éventuellement, et ça se fait avec les oiseaux aussi. Donc si vous avez un jardin et que vous avez un petit poste d'observation, vous pouvez tous les matins passer un quart d'heure, une demi-heure à observer ce qui se passe et noter quels sont les oiseaux que vous pouvez repérer. C'est difficile parfois parce que les oiseaux, ils sont petits, ils vont vite on a du mal à les reconnaître. Alors il y a un truc qui est très bien, c'est le chant de ces oiseaux. Avec un portable, on peut enregistrer...
Avec l'enregistreur.
Oui, absolument. Le chant de l'oiseau, l'envoyer sur un site qui est dédié et qui vous dira exactement à qui appartient cette jolie chanson.
Il n'y a pas le nom exact du site
Non, mais là encore, c'est pareil. C'est France Nature Environnement, la Ligue de protection des oiseaux. Et ça se fait en général avec le Muséum d'histoire naturelle de Paris qui concentre toutes ces informations.
Et c'est une très belle information.
Voilà, je voulais finir par une petite dédicace au martinet.
Ah oui, c'est vrai. C'est un cas particulier,
qui
le martinet.
Oiseau, c'est dingue, vraiment. C'est un oiseau qui est très court sur pattes et qui a des grandes ailes. Il ne peut pas se poser par terre.
Ah, oui.
Donc il s'est adapté, comme d'autres espèces avant lui, mais là c'est quand même particulier, à ne jamais atterrir. Il peut faire 10 mois d'affilée dans l'air en volant sans
vraiment s'atterrir.
10 mois. Alors comment il fait ? Il monte à 2-3 000 mètres d'altitude, et puis là il commence à se mettre à planer, et il descend tranquillement, jusqu'à un lieu qui ne sera pas au sol, mais qui lui permettra de repartir après. Donc ça peut être un fil, ça peut être des choses comme ça. Donc c'est absolument dingue, le martinet. Et puis ça va très très vite aussi, parce que ça plane, ça va doucement, mais il peut atteindre les 200 km/h. J'appelle ça un oiseau de chasse, ou comme il y a des avions de chasse, parce qu'il vole en plus en groupe. Ça ressemble à une hirondelle, le martinet. C'est un petit peu le même look, mais l'hirondelle, elle vole un petit peu partout, elle fait ce qu'elle veut. Alors que les martinets, ils sont souvent très disciplinés et ils se regroupent à 10, 12, 15, des tours de maison à une vitesse complètement incroyable sans jamais se frôler. Quoi.
C'est impressionnant,
c'est fabuleux. C'est fabuleux.
On n'imagine pas comme ça, mais c'est vrai que 200 km/h, c'est quand même beaucoup.
Bah oui, ils pourraient faire de la compétition. Oui. Donc protégeons les oiseaux, aidons-les, n'en faisons pas trop, donnons pas trop à manger. Rappelons-nous, ce sont des oiseaux, des
oiseaux sauvages.
sauvages, des êtres sauvages qui ont leur propre autonomie. Il faut les aider, on peut le faire, et c'est très bien, mais il ne faut pas surdoser.
Eh bien, c'est super. Merci beaucoup, Jean-Louis, pour cet épisode autour des oiseaux en hiver. Et on se dit pour une prochaine chronique, la semaine prochaine.
Voilà, la semaine prochaine.
Allez, passez une bonne soirée et on se dit à très vite sur Studio 45.